On est le 14 juillet. Jour de fête nationale. Alors quand j'étais petit, il y avait, j'aimais beaucoup le 14 juillet pour une chose en particulier. C'était le défilé. Bon, je dois avouer que cette image-là, c'était pas celle que je préférais. Moi, je préférais les chars, les avions, etc. Tout ce qui était un peu plus impressionnant. Parce que voir des hommes défiler pendant des heures, c'était un peu long. Du coup, en ce jour particulier en France, de défilé de forces militaires, ça m'a fait penser à un passage de la Bible très connu, où nous avons un défilé. Est-ce que quelqu'un aurait la réponse ?
Jéricho.
Exactement. Je vais parler de la bataille de Jéricho. Et ce matin, j'aimerais qu'on reparcoure ensemble ce passage et voir ce que l'on peut en tirer pour nos vies. Du coup, même si pour la plupart, vous le connaissez tous très bien, c'est Lynn qui va nous lire le passage du coup de Josué 6, 1 à 20. Il sera affiché aussi en même temps.
La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière, par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ses portes. L'Éternel dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho, son roi, et tous ses guerriers. Pendant 6 jours, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville. » Une fois par jour. 7 prêtres, portant chacun un corps fait d'une corne de bélier, précéderont le coffre de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront du cor. Quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri. Et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors, le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. Josué, fils de Noun, convoqua les prêtres et leur dit, « Chargez le coffre de l'Alliance sur vos épaules et que 7 d'entre vous prennent 7 corps faits de cornes de bélier et marchent devant le coffre de l'Éternel. » Puis, il dit au peuple, « En avant !» Faites le tour de la ville et que les hommes armés précèdent le coffre de l'Éternel. Le peuple fit comme Josué l'avait ordonné. 7 prêtres, portant 7 corps, faits de cornes de bélier, passèrent devant l'Éternel et se mirent à sonner de leur instrument, tandis que le coffre de l'Alliance suivait. Les hommes armés les précédaient et l'arrière-garde suivait le coffre. Ils marchaient au son du cor. Josué avait donné cette consigne au peuple, pas de cri, restez muets. Ne dites pas une parole jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris. Le coffre de l'Éternel fit une fois le tour de la ville, puis tous rentrèrent au camp pour la nuit. Le lendemain, Josué se leva de bon matin, et les prêtres chargèrent le coffre de l'Éternel sur leurs épaules. 7 prêtres, portant 7 corps faits de cornes de bélier, se remirent en route devant le coffre de l'Éternel, en sonnant de leur instrument. L'avant-garde les précédait, et l'arrière-garde suivait le coffre de l'Éternel. Ils marchaient au son des cors. Ils refirent une fois le tour de la ville ce jour-là, avant de regagner le camp. Ils firent ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent dès l'aurore et firent 7 fois le tour de la ville de la même manière. C'est le seul jour où ils en firent 7 fois le tour. La 7e fois, lorsque les prêtres sonnèrent du cor, Josué ordonna au peuple, poussez des cris. Car l'Éternel vous livre la ville. La ville, avec tout ce qu'elle contient, sera vouée à l'Éternel. Seule Rahab, la prostituée, sera laissée en vie avec tous ceux qui se trouveront dans sa maison, car elle a caché les hommes que nous avions envoyés. Mais attention, prenez bien garde à ce qui doit être voué à l'Éternel. Ne prenez rien de cela. Sinon, vous placeriez le camp d'Israël sous une sentence de destruction et vous lui attireriez le malheur. Tout l'argent et l'or, tous les objets de bronze et de fer seront consacrés à l'Éternel et on les mettra dans son trésor. On sonna donc du cor. Dès que le peuple l'entendit, il poussa un formidable cri et le rempart s'écroula sur place. Aussitôt, les Israélites s'élancèrent à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi. Et ils s'en emparèrent.
Merci beaucoup, Lynn. Et quoi, avant de s'attaquer au corps du texte, on va au cœur de l'action, on va remettre un petit peu en contexte ce passage. Notre personnage principal, c'est Josué. Josué, qui est le successeur de Moïse en tant que guide du peuple hébreu, pour l'amener sur la terre promise. Dans Josué 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. » Josué est donc celui par lequel s'accomplit la promesse faite par Dieu à Moïse. De la terre où le peuple hébreu, pour s'installer après avoir été esclave nomade pendant des dizaines d'années. Petit problème, le pays promis est déjà occupé par des peuples divers, opposés à Dieu. Josué et le peuple hébreu vont donc devoir conquérir le pays, et Dieu prépare Josué à cela. En Josué, toujours, votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Du coup, dans cette conquête, le premier obstacle sur lequel va tomber Josué, c'est Jéricho. Alors, on a très peu d'informations, en tout cas dans la Bible, sur la ville de Jéricho. Il y a quelques recherches archéologiques qui ont dévoilé certaines choses sur Jéricho. Donc, vous savez que c'est la porte d'entrée du pays de Canaan. C'est une ville fortifiée, très ancienne, avec une alimentation en eau et de grosses murailles. Tout ça permettait du coup à Jéricho de pouvoir encaisser un siège pendant longtemps. Donc ça commence mal pour Josué avec une ville presque imprenable. Et l'autre détail qu'on trouve dans la Bible, c'est qu'à sa tête il y a un roi, ce qui était la norme dans tout le pays de Canaan. On avait des cités-états, donc c'était un peuple, une ville, un roi. Du coup, Josué, en tant que bon chef de guerre, il va envoyer deux éclaireurs, deux espions, pour évaluer les forces de l'opposant. Et les seules choses qu'on leur apprend, ce ne sont ni les forces armées, ni leur nombre, ni leur équipement, ni quoi que ce soit d'informations purement militaires. On a deux informations La première, c'est que Jéricho est bouclé. Les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur le chemin qui mène au gué du Jourdain. Dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma les portes derrière eux. Et en Josué 6, la ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ses portes. Et la deuxième information, qui était dans le dernier passage aussi, c'est que le peuple de Jéricho, il a peur et il est découragé. Un peu plus tôt, quand Rahab s'adresse aux deux espions, elle leur dit « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de nous tenir tête. » Ça nous fait donc, d'un point de vue purement militaire, pas tant d'informations que ça pour mener une bataille. C'est juste qu'ils ont peur et que la ville est verrouillée. Donc, vu que c'est une ville fortifiée, techniquement, ils vont avoir des problèmes. Mais Dieu rappelle quelque chose à Josué. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi. Et Dieu se rappelle à Josué et rend concrète cette promesse juste avant la bataille. Donc c'est le passage juste avant ce qu'on a lu, en Josué 5. Non, répondit l'homme, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Alors Josué se prosterna, le visage contre terre, et lui dit, Seigneur, je suis ton serviteur, quels sont tes ordres? Le chef de l'Éternel lui répondit, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. Et Josué obéit. Dieu envoie un ange, alors c'est pas décrit tel quel comme ça, on sait pas vraiment qui c'est, en tout cas quand on le lit au premier abord. Et Josué, la réaction qu'il a, c'est qu'il voit cette personne et qu'il obéit directement. Il pose pas de questions. Mais ça, on va le garder pour un peu plus tard. Donc une fois qu'il a envoyé ses éclaireurs, on passe à la bataille. Du coup, on l'abordait en trois points. La première partie, ce sera l'ordre de Dieu. Ensuite, la mise en pratique. Et le dernier point, l'extermination. Alors, l'ordre de Dieu. Dieu vient à nouveau à la rencontre de Josué pour lui confirmer sa promesse. En Josué, ce qu'on a lu, au verset 2, « Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. » Et cette fois encore, la promesse, elle s'accompagne d'un ordre, d'un commandement que Dieu lui donne. Il lui rappelle que, rappelez-vous déjà, juste avant l'entrée dans le pays de Canaan, Dieu promet à Josué qu'il sera avec lui. Et la condition que Dieu pose, c'est simplement prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dieu, il se rappelle à son peuple, il lui rappelle les conditions, la marche à suivre pour réussir, pour ne pas chuter. Parce que Dieu sait d'où vient le peuple hébreu, sorti après 40 ans dans le désert d'Égypte. Il est dans les premières années de sa vie en tant que peuple. Et Dieu sait par quoi ils vont passer, les batailles, les rois, et ainsi de suite, toute l'histoire qu'on en a après du peuple. Et comme un père qui guide son enfant dans les premières années de sa vie, Dieu se rappelle à son peuple et lui rappelle la marche à suivre. L'ordre que Dieu donne, il est clair, précis et détaillé. On va pas relire le texte, mais Dieu donne un cheminement très précis, qu'à notre époque on pourrait être, je trouve loufoque, de le déroulé de la bataille. Qu'est-ce que tu dois faire chaque étape? Du coup, la mise en pratique. Le peuple se met en ordre de marche. Le peuple fit comme Josué l'avait ordonné. Sept prêtres portant sept corps faits de cornes de bélier, passèrent devant l'Éternel et se mirent à sonner de leurs instruments, tandis que le coffre de l'Alliance suivait. Les hommes armés les précédaient, une arrière-garde suivait aussi le coffre, ils marchaient au son du cor. Josué avait donné cette consigne au peuple, « Pas de cris, restez muets. Ne dites pas une parole jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris. » Le coffre de l'Éternel fit une fois le tour de la ville, puis tous rentrèrent au camp pour la nuit. Du coup, le peuple, sous la direction de Josué, il va obéir strictement aux ordres de Dieu. Enfin, j'ai pas le nombre en tête du peuple hébreu, mais juste pour suivre exactement ce qu'a demandé Dieu, aucun cri, il faut une sacrée discipline pendant une journée de faire le tour de toute la ville et se taire toute la journée. On papote pas avec son voisin, rien du tout, on fait le tour, point. Et le peuple le fait à la lettre. Pendant 6 jours, le peuple fait 6 fois le tour de la ville, et le 7e jour, ils vont se reposer, comme lors de la création. Non, le 7e jour, ils font 7 fois plus que la veille. Ils se levèrent dès l'aurore et firent 7 fois le tour de la ville, de la même manière. C'est le seul jour où ils en firent 7 fois le tour. Et le bouquet final, on sonna du cor. Dès que le peuple l'entendit, il poussa un cri, un formidable cri, et le rempart s'écroula sur place. Alors vu que j'ai un esprit plutôt cartésien et un peu scientifique, j'aime bien comprendre les phénomènes physiques ou autres qui se passent. Et la chute du mur de Jéricho, c'est un sujet qui s'y prête bien. On a toute une série de conditions et on a un événement qui se passe, les murailles s'écroulent. Petit avertissement, tout ce que je vais dire n'a aucun fondement ni de recherche théologique et ça fait pas office de vérité. C'est simplement une hypothèse, une piste de réflexion que j'aime bien formuler sur ce phénomène, ce miracle. Parce que oui, c'est quand même un miracle. Comme on l'a dit juste avant, Jéricho est une ville fortifiée, avec d'énormes murailles, imprenables presque. Énormes au point où il y a certaines maisons qui étaient construites à l'intérieur des murailles. Ville quasiment imprenable, avec si peu d'informations sur de quelle taille est la muraille, etc. Il n'y a que l'information de « ils ont peur » et « la ville est fermée ». Et en 7 jours, sans toucher à une seule pierre, la muraille tombe. Alors, avant de vous exposer ma petite hypothèse, j'ai 2 questions. Est-ce que le phénomène de résonance, ça vous parle? Et est-ce que vous savez pourquoi les militaires n'ont pas le droit de marcher au pas sur un pont? J'entends des réponses, du coup je vais donner à haute voix. Alors la résonance est un phénomène selon lequel certains systèmes physiques sont sensibles à certaines fréquences, soumis à une oscillation proche de ces fréquences, le système va se mettre à osciller ou vibrer de plus en plus, jusqu'à atteindre un régime d'équilibre ou bien jusqu'à une rupture d'un composant du système. Et là vous avez tout compris, c'est super, vous avez bien suivi au cours de physique, merci. Bon, pour faire une image un peu plus parlante, ceux qui voient pas ce que c'est comme lorsqu'on fait chanter un vers avec son doigt. Lorsqu'on a trouvé la bonne fréquence pour le faire vibrer, on peut faire monter le niveau du son jusqu'à briser le vers. Pour les plus jeunes, quand vous êtes dans une piscine et vous amusez à faire des vagues, si vous mettez en rythme avec les vagues quand vous sautez, les vagues grossissent et vous videz la piscine. Ça, c'est les parents qui sont pas contents après. Donc c'est ça le phénomène de résonance. Et pour la deuxième question, on va faire un peu d'histoire. En 1831, le 60e régiment de fusiliers anglais était en manœuvre d'entraînement dans les marais de Kersalmour, alors qu'un détachement de 74 hommes, les soldats, sentirent que le pont commençait à vibrer au rythme de leurs pas. Trouvant la sensation plaisante, certains d'entre eux se mirent même à siffloter un air de marche. Ils avaient pratiquement atteint la berge lorsqu'ils entendirent des coups rappelant une fusillade désordonnée. Immédiatement, l'une des colonnes en fonte, supportant les chaînes suspentes, s'abattit sur le tablier, décrochant dans le même mouvement la pierre de la culée dans laquelle elle était encastrée. Ce côté du tablier, privé de support, tomba d'une hauteur de 6 mètres dans la rivière, jetant à l'eau, projetant contre les chaînes 40 des soldats. Phénomène de résonance, sous la fréquence des pas des soldats, marchant au pas, le pont vibre, bouge et finit par s'écrouler. Et c'est pour ça que depuis, les militaires ne marchent pas au pas sur les ponts. Ce qui nous amène à Jéricho. Peut-être que la marche du peuple autour de la ville a fragilisé la muraille en faisant entrer en résonance l'enceinte de la ville. Et le cri final du peuple, au son des corps, a été le déclencheur de la résonance finale pour écrouler les murs. Peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être que la marche du peuple autour de la ville a rien déclenché du tout. Et c'est Dieu qui a déclenché un tremblement de terre en réaction à l'obéissance de son peuple pour lui donner la victoire. Au final, dans tous les cas, l'intervention divine est claire. Si l'on prend l'hypothèse d'un phénomène de résonance, il faut connaître parfaitement la muraille, parfaitement chaque pierre, le terrain, son agencement, pour pouvoir faire entrer en résonance et faire tomber la muraille. Et même si je ne doute pas des capacités du peuple hébreu, je ne pense pas qu'ils aient la connaissance nécessaire et le savoir pour le faire à cette époque. Seul le Créateur le peut. Et en plus, pour le rappeler, il n'y a que 2 espions qui sont rentrés, avec que 2 informations, tout sauf la couleur des pierres, la matière, etc. Seul Dieu le peut. Que cela soit une intervention divine, directe, ou l'utilisation des lois et phénomènes que Dieu lui-même a établis, ce moment nous révèle la souveraineté de Dieu. Et Dieu est aussi souverain dans la suite. En effet, la suite des événements de la conquête, on ne l'a pas lu tout à l'heure. Lynn ne l'a pas lu. Et ça aurait été beaucoup plus simple pour moi d'éviter le sujet. Mais il est bien présent. Je vais donc reprendre la lecture à partir du verset 21. Ils exterminèrent par l'épée, pour les vouer à l'Éternel, hommes et femmes, enfants et vieillards, taureaux, moutons et ânes, tous ceux qui vivaient dans la ville. Josué dit aux 2 hommes qu'ils avaient envoyés pour explorer le pays, « Allez à la maison de Rahab, la prostituée, et faites-la sortir de là, avec les siens, comme vous le lui avez juré. » Les 2 hommes y allèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et ses biens, et toute sa parenté. Et ils les installèrent en dehors du camp d'Israël. Puis, ils brûlèrent la ville avec tout ce qui s'y trouvait, excepté l'argent, l'or, les objets de bronze et de fer que l'on déposa dans le trésor du sanctuaire de l'Éternel. Personnellement, je trouve ce passage très dur à appréhender, à intégrer, comme beaucoup de passages de la suite de la conquête. Pourquoi ? Comment notre Dieu, qui est amour, peut ordonner ça ? Comment permet-il ce massacre ? Alors, bien que la pleine compréhension de ce commandement ne sera accessible qu'une fois auprès de notre Père, où nous pourrons certainement poser toutes ces questions, tous nos pourquoi, quelques pistes d'explication sur ces événements. Tout d'abord, le pays de Canaan est la terre promise aux Israélites. Promesse faite d'abord à Abraham, puis répétée à Isaac, puis à Jacob, et à Moïse, et enfin, comme nous l'avons vu, à Josué. En Deutéronome 31, l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que j'ai juré de leur donner. Je serai moi-même avec toi. » Dieu, il ajoute quelques conditions à Josué sur la conquête du pays. En Deutéronome 21, « Tu ne rendras pas impur le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. » Tu ne rendras pas impur, ou selon les versions, tu ne souilleras pas. Dans toutes les lois données au peuple hébreu, il y a plusieurs listes de ce qui est considéré comme pur ou impur, sur les aliments, les maladies, les alliances, etc. La pureté demandée par la loi était une condition nécessaire pour pouvoir s'approcher de Dieu. La terre promise a donc un caractère particulier. C'est un lieu saint. Et Dieu le rappelle à Josué, au verset 15 du chapitre 5. Le chef de l'armée lui répondit, « Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. » Du coup, la terre promise est un lieu mis à part par Dieu, où à l'image du tabernacle, aucune impureté, au sens de la loi, ne pouvait y être introduite. Les peuples du pays de Canaan étaient tous rebelles à Dieu. Idolâtres, ils se livraient à toutes sortes de pratiques décrites comme abominables. Ces pratiques n'étaient pas compatibles avec les directives de Dieu. La cohabitation n'était donc pas une option. D'une part parce que Dieu ne tolère pas le compromis spirituel, comme il le rappelle dans un de ses commandements, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Et d'autre part parce que le mélange risquerait d'entraîner le peuple à se détourner de lui et chuter. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer après la conquête. Et plus tard, se répéter de nombreuses fois. Dieu sait donc à l'avance que son peuple va se compromettre. Mais par amour, il fait tout pour leur éviter cela. Un deuxième point, c'est que l'extermination est un ordre donné par Dieu, un ordre clair. En Deutéronome 20, versets 17 et 18, « Oui, tu extermineras ces peuples, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les pratiques abominables auxquelles ils se livrent en l'honneur de leur Dieu, et que vous ne péchiez pas contre l'Éternel, votre Dieu. » Comme pour Sodome et Gomorre, Dieu applique son jugement au peuple rebelle. À Sodome et Gomorre, il avait agi directement. Là, l'exécution de son jugement passe par son peuple. Dieu juge les peuples qui ne se repentent pas et qui lui sont rebelles. On peut y voir quelque part une préfiguration du jugement dernier de Dieu, où Dieu jugera tous les peuples et tous les individus. Et comme seul le peuple mis à part par Dieu aurait dû pouvoir vivre sur la terre promise, seules les personnes mises à part par Jésus pourront accéder à la pleine présence de Dieu, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre promise dans la présence complète de Dieu. Le dernier point, il concerne le traitement des enfants. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, parce que ça ferait l'objet d'une étude à part entière et complète. Je dirais seulement que c'est Dieu qui, dans sa parfaite justice, donne cet ordre. Comme on l'a vu juste avant en Deutéronome 20 au verset 17 et 18. Il donne cet ordre dans le contexte de la conquête. Et un autre point, c'est qu'il ne paie pas la faute de leurs parents. Comme cela est rappelé en Deutéronome 24, les parents ne seront pas mis à mort pour les crimes commis par leurs enfants, ni les enfants pour ceux de leurs parents. Si quelqu'un doit être mis à mort, ce sera pour son propre péché. Tout ceci ne sont que des premières explications. Et je pense vraiment qu'on aura toutes les réponses complètes auprès de Dieu. D'ailleurs, ça nous est rappelé dans un autre chapitre du Deutéronome, en Deutéronome 29 au verset 28. Ce qui est caché est réservé à l'Éternel notre Dieu. Par contre, nous sommes concernés pour toujours par ce qui a été révélé, par toutes les paroles de cette loi qu'il nous faut appliquer. Alors en conclusion, en quoi pouvons-nous être concernés dans nos vies par ce que ce texte révèle? Eh bien, quelques points. Le premier, comment réagissons-nous lorsque nous avons un ordre clair de Dieu? Est-ce que nous réagissons comme Josué, ou nous obéissons à la lettre, même dans l'incompréhension, ou sommes-nous un peu plus comme Akan, où l'on s'accommode un peu plus de l'ordre donné? Oui, Dieu, il avait mis de l'or, il a dit de mettre tout l'or, tout l'argent dans le sanctuaire de l'Éternel. Tout, vraiment. Bon, vu la quantité, je peux bien en garder un ou deux, ça se verra pas. Quelle différence! Ne sommes-nous pas parfois plus proches d'Akan que de Josué? Et pourtant, quel exemple que nous donne Josué? Peu importe les circonstances, il obéit à Dieu avec foi. Il ne pose pas de questions. Sa foi, elle n'est pas aveugle. Il prend quand même ses précautions, en tant que bon chef de guerre, avant d'aller à la conquête. Il envoie ses éclaireurs pour mesurer la force ennemie. Mais son engagement et son obéissance sont totales. Et c'est aussi Jésus qui nous le rappelle en Luc 14. De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Nous devons mesurer notre engagement, mais suivre Jésus implique un engagement à l'image de celui de Josué. Un autre point, c'est que Josué a aussi compris, à l'inverse du peuple plus tard, que seule l'obéissance à Dieu lui serait profitable. Et on retrouve plusieurs fois dans la Bible cette notion, comme dans les Proverbes, le Proverbe 10, verset 17. Il n'est pas fiché, je vais vous le lire. Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui délaisse l'avertissement s'égare. Le dernier point, c'est qu'en toutes circonstances, Dieu est souverain. Peu importe les raisons explicables ou non, les incompréhensions du moment, qui vont parfois à l'opposé de notre propre pensée, de notre propre sagesse, Dieu sait par quoi nous allons passer et pourquoi. Et nous ne sommes parfois peut-être pas amenés à chercher le pourquoi, mais à avancer avec foi dans celui qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Et je terminerai par ce texte, cette promesse de Dieu faite à Josué. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi. Alors, tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Merci.